Avec Daniel Rondeau, il me semblait que dans la série des invités que je voulais avoir cette année, qui ne sont donc pas des proustiens, mais des amateurs éclairés et passionnés de Proust, il nous fallait un ambassadeur. Et j'ai choisi un ambassadeur qui est aussi un écrivain. Daniel Rondeau est aujourd'hui, comme on dit, notre ambassadeur, ambassadeur de France auprès de l'UNESCO depuis l'année dernière. Il était auparavant ambassadeur à Malte depuis 2008. Mais c'est d'abord un journaliste, un écrivain. Hein. Pendant longtemps, il s'est occupé des pages culture de Libération. Il est collaboré au Nouvel Observateur, il a collaboré à l'Express et il est l'auteur de romans, aussi d'une série importante de récits sur les villes, notamment autour du bassin méditerranéen, depuis Tanger jusqu'à Malte. Le dernier volume publié l'année dernière, vers la fin de ce séjour, ou après même la fin de ce séjour, à Malte. Daniel Rondeau, je l'ai connu il y a quelques années lorsque les réflexions politiques de Thibaudet, que Robert Koch m'avait commandé, ont été publiées chez Lafond dans la collection Bouquins. C'est comme ça que nous avons fait connaissance et que nous sommes liés il y a quelques années. J'ai donc pensé que il était, par toutes ces expériences, il était parfaitement désigné pour nous parler de Proust. Et j'ajouterai peut-être la dernière, c'est qu'il y a longtemps, Daniel Rondeau, militant de la gauche prolétarienne, s'est établi en usine avant de devenir ambassadeur. Et qu'il a travaillé comme ouvrier à l'époque où beaucoup le faisaient.
Antoine, l'usine était ma première ambassade.
L'usine était sa première ambassade. Bon, c'est parfait. Et donc, je crois que c'est aussi la lecture de Proust de ce point de vue de militant établi en usine au début des années, fin des années 60, début des années 1970, qu'il voudrait parler de Proust.
Merci infiniment. Ça me soulage de vous entendre parler de cet épisode de l'usine, parce qu'en fait, je vais un peu commencer par ça, et je me disais, c'est une erreur, ça va être trop long, je vais sauter, du coup je vais garder ça. Mon propos va être de vous raconter le chemin et les rencontres qui m'ont conduit vers Marcel Proust et vers son œuvre. J'ai été un enfant des vignes, des bois et des livres. Enfant des vignes et des bois, puisque mon grand-père était un modeste vigneron champenois et que j'ai passé beaucoup de temps avec lui dans son pressoir et dans les caves. J'ai beaucoup aimé mon village natal, contrairement peut-être à un certain nombre de personnes et peut-être aussi contrairement à un certain nombre d'écrivains pour qui le village natal et parfois une prison et un horizon un peu trop limité. J'ai vécu ce village natal comme une sorte de métaphore du monde. Des vignes, du clocher, du ciel de ce village, je suis entré en correspondance avec des horizons lointains. Mes parents exerçaient le métier d'instituteur, d'abord à la campagne, puis dans une petite ville de province champenoise, une cité administrative, triste et étale, où jamais je ne me suis ennuyé. Quand je dis que je suis aussi un enfant des livres, c'est parce que mon père, qui était une sorte de saint homme laïque, ce n'était pas un grand lecteur, c'était un instituteur primaire qui avait la passion des livres. Mon père a fait quelque chose d'assez inhabituel, en tout cas en ce temps-là, et dans son milieu. Quand je suis entré en classe de 6e. Il m'a ouvert un compte dans une librairie qui était la librairie de l'Union républicaine à Chalon-sur-Marne, rue d'Orfeuille. Et il m'a dit que je pouvais aller acheter tous les livres que j'avais envie de lire. Quel cadeau royal pour un enfant qui est passionné de lecture. Je venais en sortant du lycée avec ma bicyclette. Je regardais l'aventure de la librairie. La littérature française était un jardin. Je découvrais Giono, Aragon, Malraux, Céline, Camus, Morand. J'ai beaucoup profité de cette facilité qu'il m'avait donnée. J'ai beaucoup lu. Mais Proust n'est pas entré dans mon paysage. Un peu plus tard, je me souviens m'être débarrassé d'un ami qui me parlait avec beaucoup d'insistance de Proust en lui opposant de toute la hauteur de mon ignorance cette phrase que l'on prêtait sans doute injustement à André Malraux, « Ah, Proust, un écrivain pour concierge !» En fait, Malraux s'était expliqué en quelques lignes dans une lettre qui a été publiée récemment chez Gallimard, lettre choisie, passionnant volume de correspondance établi par Jean-Yves Tadier. Et en 1971, Jean-Yves Tadier, justement, spécialiste de Proust, avait envoyé à Malraux son livre « Proust et le roman ». Et Malraux l'a remercié d'un mot bref qui commence ainsi « Même si je n'aime pas Proust, je le tiens pour l'un des plus grands romanciers de ce siècle. » C'est justement en 1971 que je quitte Paris, le matin du 13 juillet, direction Nancy et l'usine. À 20 ans, j'avais été happé par le grand monôme de mai 68 et j'avais rejoint le camp des rebelles. Intelligents et sots, nous levions haut nos cœurs dans le ciel de foule déracinée. Nous tirions des plans sur la comète de Mao et de Mandrin. Nous nous gorgions de mots simples. Nous nous fabriquions une idée impitoyable des vertus républicaines que nous mixions à de guerrières fariboles. Nous faisions du bruit dans l'Hexagone. Nous passions des alliances avec tous les oubliés de la prospérité. Des plus idéalistes, mais aussi des plus hableurs ou des plus comédiens, nous faisions nos chefs. Nous avons ainsi hissé sur nos pavois des lamineurs lorrains, d'agiles marocains sortis des chaînes de Billancourt, mais aussi d'hirsutes zonards et bon nombre de policiers camouflés qui étaient chargés de nous infiltrer. Nous disposions de l'arme absolue, la passion. Cette passion nous aveuglait. Et j'ai commencé à penser à de plus rudes décors que ceux du quartier latin. Je voulais poser ma tête sur le bio des établis et tenter de renaître autrement, dans la brutalité ouvrière, dans l'humilité la plus totale, confronté à la réalité, fort peut-être de cette conviction qu'avait déjà eue Simone Veil avant nous, comme l'a remarqué Christian Jambet, que ceux qui s'affrontent à la machine, qui font corps avec elle, leur offrent une connaissance immédiate, plus vraie, d'une présence inaccessible aux voies de l'intelligence discursive. Nous étions bien loin de Combray, loin du grand hôtel de Balbec, loin de la littérature, loin des oreillers, loin des caresses et de la tendresse, même si je sais bien que Proust a fait entrer dans son univers des employés des trains ou des employés des téléphones, des commis de commerce et d'hôtels, et même des électriciens, et que le narrateur nous confie « Je n'avais jamais fait de différence entre les ouvriers, les bourgeois et les grands seigneurs, et j'aurais pris indifféremment les uns et les autres pour amis, avec une certaine préférence pour les ouvriers, et après cela pour les grands seigneurs, non par goût, mais sachant qu'on peut exiger d'eux plus de politesse envers les ouvriers qu'on ne l'obtient de la part des bourgeois. Je passais quelques années à l'usine, je ne vais pas vous raconter ces années d'établissement, mais vous comprendrez facilement que cet exil dans quelques usines des bords de la Moselle n'a pas, à ce moment-là, vraiment facilité ma rencontre avec Proust. Sachez seulement qu'un jour, ayant mis avec mes camarades la clé de la Révolution sous le paillasson, mais continuant pour quelque temps encore à travailler de mes mains pour gagner ma vie, je suis allé à pied du bas quartier où j'habitais jusqu'au centre de Nancy. Franchissant la Meurthe, dans la chaleur d'une fin d'après-midi, j'ai aperçu une petite flottille de yoles sur les eaux déjà basses de la rivière. Des étudiants de l'école des mines tiraient sur leurs avirons. Les couleurs vives de leurs maillots, leurs efforts harmonieux, leur glisse aisée sur le miroir du courant, la fraîcheur des feuillages sur la rive, la quiétude du jour faiblissant qui enveloppait la ville tout entière sous un ciel orangé, je restais longtemps immobile, absorbé par toute cette tranquille beauté. Je m'éloignais en pensant à ces garçons insouciants qui avaient mon âge. Ma jeunesse était passée. Je l'avais laissée dans des usines et j'avais soudain une grande fringale de livres. Arrivé au cœur de la ville, j'ai poussé la porte d'un bouquiniste. Je n'avais pas poussé la porte d'un bouquiniste, d'un libraire, d'une bibliothèque pendant des années. Proust m'attendait à la sortie de l'usine, chez ce bouquiniste, et c'est Paul Morand qui me l'a présenté. L'auteur de Fouquet ou Le Soleil offusqué n'était pas exactement à cette époque mon genre d'écrivain. C'était seulement pour moi une sorte d'inconnu que je ne pouvais imaginer qu'à travers sa mauvaise réputation de diplomate, qui quitte Londres pour Vichy le 18 juin 40, abandonnant sa secrétaire, Elisabeth de Miribel, au général de Gaulle. Doublement fautif, donc, à mes yeux, parce qu'il était de droite et pétainiste. Mais j'ai trouvé, à l'étal modeste de ce bouquiniste, plusieurs éditions originales qui ont attiré mon regard. Et notamment un exemplaire de Nœud coulant, dans un boîtier cartonné, marbré rouge, très élégant, et un prix accessible à ma bourse d'ouvrier. Le marchand m'a vendu le volume en me disant « Morand, prenez Morand, ça n'intéresse plus personne. » Et c'était vrai. Et j'ai commencé à remonter solitairement la pelote Morand, découvrant la préface de Proust à Tendre Stock, Proust saluant ce nouvel écrivain, assez fatigant à lire et difficile à comprendre, parce qu'il unit les choses par des rapports nouveaux. Paul Morand et Marcel Proust s'étaient liés d'une amitié durable en 1916. Morand a raconté la première visite de son visiteur du soir. En fait, Morand avait parlé à Londres, un soir pendant un dîner au Savoy, il a parlé avec des amis de Marcel Proust et en disant « c'est le plus grand écrivain que j'ai jamais lu ». Les amis ont rapporté la chose à Proust et qui a décidé un soir d'aller rendre visite à Paul Morand. Donc, il était plus de minuit quand il a sonné à la porte. Paul Morand est en pyjama. Il ouvre. L'homme porte une pelisse et dit d'une voix cérémonieuse, chevrotante et artificiellement déguisé, « Je suis Marcel Proust ». La nuit se passe en conversation. Une seule phrase suffit à Proust pour parler toute la nuit. Morand a dit « La phrase ne faisait que commencer, elle ne devait pas finir avant le milieu de la nuit ». Curieuse rencontre entre ces deux hommes. Curieuse rencontre entre l'immobilité et le mouvement, entre celui qui vit dans un monde intérieur, avec ses plongées en apnée dans le passé, et celui qui ne peut respirer qu'en cherchant un surcroît d'oxygène et ne sait écrire qu'à l'extérieur de lui-même. Petite parenthèse, pour vous dire que le climat de cette rencontre est d'ailleurs très bien rendu dans le premier tome des Mémorables de Maurice Martin Dugard. Martin Dugard consacre un chapitre à Proust. Je fais une petite citation. « C'est à 11h du soir, ce qu'il fit qu'il avait l'air d'être en avance, que Marcel Proust entre chez la princesse Suzzo comme un phalène qui va buter contre la lampe. » Proust lui parle de Morand. « Ce cher et délicieux ami que j'admire, d'une promptitude sans égale, d'une frivolité où la cruauté se baigne, toute nue, mais non toute entière, car elle y trempe seulement ses petits pieds glacés, et d'une promptitude, je vous disais, sans égale, à rattraper ce temps-ci, mais non, il le précède, le devance, plus rapide qu'aucune machine volante, ce temps dont la vitesse, entendre ce cher et délicieux Morand, sera aussi fabuleuse que l'est déjà sa nouveauté et constitue sa nouveauté elle-même et certes son principe et son exigence, ce temps qu'il me serait intolérable de vivre, mais Dieu merci, je n'y vis point. » Je vous demande pardon d'abréger la citation parce qu'il y a plusieurs dizaines de pages. Mais c'est en fait la seule phrase de Proust parlant de la vitesse, au ralenti, debout dans un salon, à droite d'une cheminée, les pieds sur la plaque de calorifère, et jamais malade n'avait paru plus vaillant à Maurice Martin Dugard. Morand, de son côté, manifeste l'estime qu'il porte à Proust dans divers textes. Sa première publication, un recueil de poèmes, s'ouvre par une ode à Marcel Proust. Quelques années plus tard, en novembre 1928, quand paraissent les deux derniers volumes de Proust, Morand veut expliquer aux Américains, à ce peuple de sprinters, comme l'écrit Jean-François Fogel dans son très beau Morand Express, qui viendra me délivrer de ma solitude morandienne, Morand veut expliquer donc à ce peuple de sprinters qui ne se retourne jamais la magie subtile et lente des détours de Proust. Le temps dans sa conception populaire, écrit Morand, ce temps implacable, mesurable comme l'est l'espace, et nu et abstrait comme lui. Je vous prie de m'excuser, je suis victime d'une clim. Ce temps dans lequel nous sommes accoutumés à établir la chronologie de nos souvenirs artificiels et sans vie, le temps n'est rien de plus qu'un vide sans signification que Proust traverse d'un bond pour prendre contact avec le vrai temps, la véritable durée et la vérité spirituelle dont il relate à travers 10 volumes les merveilles et les imperfections. C'est l'infinie fluidité du temps proustien qui fait innovation, estime Morand. Jean-François Fogel remarque que les personnages de Proust et de Morand ont une similarité. Aucun n'est né pour l'action. Qu'ils traversent tantôt un salon ou tantôt un continent en une page ne change rien. Ils n'ont pas de réel désir d'agir parmi les hommes. Les personnages de Morand, même globetrotters et pressés, restent, à l'image de Verdurin, Bloch ou Charlus, trop établis pour avoir besoin de pratiquer l'entourloupe et la générosité. Pour Proust et Morand, l'humain est brutal, rétif devant l'entraide et pas capable de s'épancher en certains moments limités. L'admiration et l'amitié de Morand pour Proust ne se sont jamais démenties. Dans le journal Inutile de Morand, 1968-1972, Proust, pourtant disparu depuis si longtemps, reste une présence essentielle, comme Saint-Simon, mais plus imposante. Présence qui surclasse, et de très loin, celle des contemporains les plus nommés par Morand. Jean d'Ormesson, Valéry Giscard d'Estaing, Maurice Reims, Jean Cocteau ou Charles de Gaulle. Ha ha ha! suis confus. Si vous permettez, je vais vous faire quelques citations du journal inutile de Morand sur Proust. 7 juillet 69. Je donnerai au musée Proust d'Illier les 6 volumes de l'histoire de l'affaire Dreyfus, de Reina, dont Proust m'avait fait cadeau pour m'apprendre à ne pas être antisémite, disait-il. 17 juin de la même année. Inutile d'écrire des romans si l'on n'entre pas dans ces personnages, soit par médium limité, comme Balzac, soit par bonté d'âme, comme Flaubert, soit par intelligence, comme Proust. Une dernière citation de 68, 8 septembre. Le sentiment de l'amour n'a rien de commun avec l'objet qu'on aime. C'est une phrase de Benjamin Constant, et elle est à la source de toute la littérature moderne depuis Proust. Pour revenir à cette période de sortie d'usine, je dois préciser qu'en même temps que je découvrais Morand, j'ai aussi commencé à lire ou à relire Barrès. Lui aussi me rapprochait, sans que je le sache, de Marcel Proust. Vous savez combien de fois Proust a écrit à Barrès pour lui dire ce qu'il lui doit. Et à ce propos, je vous renvoie d'ailleurs à ce livre d'entretien de Frédéric Grover avec André Malraux, paru à cette époque, que j'ai lu à cette époque-là, fin des années 70, et où il parle de cette, de l'œuvre de Barrès et Proust. Il compare Barrès et Proust. Fin des années 70, c'est aussi à ce moment-là que je découvre un écrivain atypique, Daniel Halévy, dont la barbe et la lavalière et les velours dataient du XIXe siècle, quand l'ancienne humanité était encore intacte. Halévy, dans sa jeunesse, avait enquêté sur la condition ouvrière et participé aux efforts des premières universités populaires. Et c'est pour ça que je le lis, car il me rattache encore, d'une certaine façon, à ce monde des usines que je vais quitter. Proche de Charles Péguy, c'est sans aucune hésitation qu'il avait décidé de se battre aux côtés de Zola et de Péguy contre la lâcheté des journaux du Parlement du monde. C'était un humaniste qui connaissait et aimait notre pays, notre histoire, et qui l'a souvent analysé avec une intelligence diaprée. Sa généalogie formait un arbre à 3 branches. Juive, protestante et catholique, avec des ramifications dans la bohème, dans la société bohème et chic. Le petit-fils d'Halévy, c'était Pierre Jox. Pierre Jox raconte comment son grand-père lui donnait son histoire et comment, dans la maison de campagne de son grand-père, il a rencontré Malaparte, qui lui avait offert un vélo de course rouge. L'un des personnages des pays parisiens, de Daniel Halévy, à mon sens l'un de ses plus beaux livres, c'est Marcel Proust. Élève du lycée Condorcet, son professeur s'est de même alarmé, Halévy se lie à Marcel Proust. « Il figurait parmi nous, écrit-il, une sorte d'archange inquiet et inquiétant. Nous l'aimons bien, nous l'admirions, pourtant nous restions étonnés, gênés par l'intuition d'une différence, d'une distance, d'un incommensurable invisible et réel entre nous. Nous voici dans la cour du lycée, 3 ou 4 vigoureux garçons, Jacques Bizet, Fernand Gregg, Robert de Flers, et nous devinions soudain une présence. Nous sentions un souffle près de nous, quelques frôlements sur notre épaule. C'était Marcel Proust, venu sans bruit, comme un esprit. C'était lui, ses grands yeux d'oriental, son grand col blanc, sa cravate flottante. Daniel Halévy et Marcel Proust sont d'ailleurs suffisamment amis pour qu'Halévy lui vante la beauté d'une crémière de Montmartre. Fière et charmante beauté qui dépassait toute attente. Entre le Moulin Rouge, le Ramor et la Truc qui file, Madame Chirade, c'était son nom, était une des gloires du Montmartre honnête. Proust, immédiatement, dit à son ami qu'il serait intéressé. Est-ce qu'il est possible de voir Madame Chirade ? Et voici les deux garçons qui stationnent devant la boutique de la rue Fontaine et regardent de loin Madame Chirade, allant et venant, occupée à servir ses clients. « Je n'avais pas exagéré, » écrit Halévy. « Elle était magnifique. J'entends encore la voix de Proust murmurant à mon oreille. « Qu'elle est belle !» Et il ajouta, la littérature ne cessant de hanter nos esprits, « Elle est belle comme Salammbô. » Puis, après un silence sans doute consacré à une courte et fervente admiration, de nouveau s'adressant à Halévy, il lui dit, crois-tu qu'on puisse coucher avec elle ? Proust avait acheté des fleurs et était allé faire une proposition malhonnête à Madame Chirade, qui avait décliné fermement, mais avec le sourire. Je pense qu'il est impossible d'avoir été chassé plus gracieusement qu'il ne l'avait été, écrit Halévy. Morand, Barrès, Halévy, et de façon plus anecdotique, André Malraux, voici donc ceux qui m'ont permis ce premier contact avec la silhouette et avec l'œuvre de Marcel Proust. En 1981, Serge Julie m'appelle pour me proposer, comme l'a rappelé Antoine Compagnon, les pages livres et culture de Libération. J'avais publié quelques articles qui apparemment avaient eu un petit écho, notamment un portrait de Leonard Bernstein que j'avais rencontré à Vienne quand il dirigeait Mahler. Il ramenait les symphonies de Mahler dans la capitale viennoise. Et j'ai refusé la proposition de Serge Julie en lui expliquant que, un, j'avais passé des années sans ouvrir un livre et que même si j'étais en train d'essayer de combler mon retard, je ne me sentais pas capable de diriger des pages littéraires. C'était de la folie. Et que, d'autre part, j'avais commencé un livre et que je souhaitais me consacrer à cela tranquillement, lisant, écrivant. Serge Julie m'a répondu que mon attitude était tout à fait incompréhensible, que je faisais une erreur grave, et qu'enfin, l'histoire ne passant jamais deux fois les mêmes plats, j'allais rester tout seul toute ma vie sur le quai de ma gare. Un an plus tard, il m'a rappelé pour me dire qu'il arrive exceptionnellement que l'histoire passe deux fois les mêmes plats, et qu'il m'attendait. Libération, à cette époque-là, était encore un quotidien gauchiste, aux mœurs relativement sauvages, mais où liberté rimait avec créativité. J'ai réuni une équipe assez talentueuse, elle comptait même un futur professeur du collège. Je vois qu'Antoine Compagnon cherche. Et le jour du Goncourt, j'ai demandé à Roger Stéphane, que j'avais lu, mais que je n'avais jamais rencontré, je lui ai téléphoné pour lui demander un papier sur le Goncourt de Malraux. Contre l'avis du petit establishment de l'époque, notre sempiternelle tribu instruite, qui m'a signalé que je faisais écrire un has-been. Après trois papiers dans Libération, s'il avait été has-been, il ne l'était plus. La première fois que nous nous rencontrons avec Roger Stéphane, c'est lors d'un dîner à la maison. Nous étions trois, Noël, Roger et moi, et nous nous livrons à une sorte de balayage général de nos passions littéraires et politiques. Et nous devenons amis. Roger Stéphane, qui venait à peine de passer le cap de la soixantaine, était loin d'être un vieillard, mais vu du haut de mes 30 ans, malgré la fraternité des liens qui nous ont unis dès les premiers instants, je le considérais moins comme un frère aîné que comme un homme marchant déjà d'un pas rond au bras de la vieillesse. Il faut dire quand même que Cocteau avait été son professeur de frivolité, que Martin Dugard lui avait fait don de sa sagesse, et que Gide, dont il avait pensé un moment épouser la fille, lui avait offert une Bible et enseigné le bon usage de la liberté. Quand j'écoutais Stéphane parler, en roulant de gros yeux foncement étonnés, des innombrables personnages qu'il avait pu connaître ou approcher, tous saisis dans le mouvement de leur propre vie, c'était le paysage d'un monde disparu, commencé avec Proust dans le commerce des livres et des écrivains, qui s'animait et se colorait. Stéphane, ce soir-là, m'a dit beaucoup de choses. Il m'a offert un livre, petit livre, Récits secrets de Drieux-La Rochelle. Et il m'a annoncé qu'il se suiciderait quand le temps serait venu, sur le thème « La vieillesse est un naufrage ». Je m'insurge. Comment accepter qu'un ami nouveau, qu'on connaît depuis une heure, vous annonce déjà qu'il va suicider et partir ? Bon. Roger Stéphane s'est suicidé, comme vous le savez, comme il l'avait annoncé, une douzaine d'années plus tard, Digitaline et Revolver. Il me raconte qu'il a filmé quelques-uns parmi les plus éminents des premiers Français ayant rejoint Londres en 40 et qu'il y a un prémontage de 20 heures d'interviews filmées qui dorment quelque part chez un producteur. Je m'insurge. Je lui dis, il faut terminer ce travail. Il me semblait que Stéphane avait entre ses mains une sorte de livre d'heures de la France libre et qu'il avait fait pour De Gaulle et pour les combattants engagés sous le drapeau de la Croix de Lorraine, ce que Guillaume le Breton avait fait pour Philippe Auguste pendant la bataille de Bouvines. Il me répond, « Monsieur, c'est vous qui terminerez ce travail quand le temps sera venu, ce que j'ai fait. » D'ailleurs, petite parenthèse, l'un de ses héros, François Coulet, homme tout à fait exceptionnel, protestant, qui avait rejoint la France libre par Moscou, Istanbul et Le Caire, et qui était devenu le chef de cabinet du général de Gaulle à Londres, deviendra diplomate après la guerre. Directeur d'Europe, plusieurs fois ambassadeur, avant de démissionner pour se réengager dans l'armée de l'air, il avait choisi comme nom de code radio Norpois. Du nom de ce héros de Proust, je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi, par autodérision, je suppose. Norpois symbolise dans la recherche cet esprit des chancelleries. Ayant puisé dans la carrière l'aversion, la crainte et le mépris de ces procédés plus ou moins révolutionnaires et à tout le moins incorrects que sont les procédés des oppositions. Naturellement, vous vous demandez peut-être si j'ai rencontré des Norpois. Je vous répondrai après 5 années pleines, passées comme ambassadeur au service de la République, que les Norpois que j'ai pu rencontrer sont très minoritaires, qu'ils ont changé, et que la consanguinité des esprits, toujours de mise, les pousse maintenant dans le camp des modernes et à une soumission assez plate. Je suis confus à l'esprit du temps. Ces Norpois, héros de la modernité, sont, me semble-t-il, peut-être beaucoup plus nuisible que le héros de Proust auquel je vais finir par m'attacher. Pendant ce premier dîner avec Stéphane, j'avais l'impression que notre hôte, qui s'était pris d'une tendre affection pour ma femme, jamais discontinuée, il n'aimait pas les femmes, mais il en chérissait quelques-unes, j'avais l'impression que notre hôte nous ouvrait une porte sur l'immensité du passé. Ne nous parlait-il pas de Cocteau qui lui avait raconté avoir sauté sur les genoux de l'impératrice Eugénie, dans les jardins du Palais Royal. Et ce dîner est tellement riche, puisqu'il semblait à la fois préfigurer notre amitié à venir et toutes les conversations à tenir, s'est terminé par un festival Marcel Proust. Roger Stéphane avait en effet réalisé un magnifique portrait souvenir de Proust pour la télévision, où il avait pu interroger devant la caméra à la fois François Mauriac, Paul Morand, la princesse Suzo, Emmanuel Berle, Jean Cocteau, Jacques de la Cretelle, Philippe Soupeau et bien d'autres. Roger nous raconta donc cette émission, agréablement surpris de constater qu'un suppôt du gauchisme comme moi, qu'il pouvait peut-être penser inculte, avait réussi à nouer de mystérieux liens avec quelques-uns de ses personnages, pas toujours très connus. Je crois me souvenir qu'il nous a ce soir-là, en quelque sorte, offert une sorte de best-of de son émission, que je ne verrai que beaucoup plus tard, interprétant chacun des personnages avec plus ou moins de réussite. Mauriac, je peux l'imiter assez facilement avec ma voix. Mauriac.
Vous voyez, jusqu'à Proust, on refaisait du Balzac ou du Benjamin Constant. À Proust, c'est la poésie. C'est la poésie du roman.
Cocteau rapproche Proust de Rob Grier ou de Michel Buteur. Cocteau fait une magnifique description de Proust, allongé dans sa chambre, qui, dit-il, ressemblait au Nautilus, et vivant dans un labyrinthe de politesse et d'impolitesse. À Lévy, questionné sur Proust par Stéphane, commence par lui faire cette curieuse réponse. Il était si singulier que j'hésite à vous répondre. La Cretelle parle de son sens de l'histoire et des filiations qu'il essaie d'établir entre ses contemporains. C'est-à-dire, il dit là, vous pensez que c'est du snobisme? En fait, non, ce n'est pas du snobisme, c'est une vision de la chaîne des hommes dans l'histoire. Il apparaît aussi le duc de Gramont, qui avait reçu Proust chez lui, il lui avait présenté le livre d'or, et quand il lui présente le livre d'or, il lui dit « Pas de pensée, monsieur Proust, le nom seulement, le nom ». Emmanuel Berle raconte qu'il s'est disputé avec Proust et que Proust lui a finalement déclaré « Vous êtes bête comme Léon Blum » en lui lançant des chaussons à la figure. Et Morand est absolument éblouissant dans son imitation de Proust, de sa phrase à la fois monocorde, chantante, très fluide, très douce et très virile. Le morceau de bravure de cette émission, c'est naturellement Céleste Albaret, la femme de chambre et secrétaire de Proust, qui s'arrache des larmes en racontant l'homme affaibli, dévoré par son œuvre et les derniers instants de l'écrivain.
« Alors, monsieur me dit, je voudrais du café. On avait toujours du café, je vais lui chercher du café. Et monsieur me dit, ce soir, aujourd'hui, c'est un grand jour, Céleste. J'ai fini, je peux mourir maintenant. »
Donc, il y a un morceau vraiment d'anthologie de Céleste Albaret racontant le travail et la mort de Proust. Il me semble d'ailleurs que Céleste Albaret a servi après la mort de Proust un éminent professeur de médecine et que l'on a pu la filmer racontant avec les mêmes intonations, les mêmes sanglots, l'agonie de son nouveau maître. Je ne veux pas... Je ne veux pas évoquer cette époque de libération sans parler de Bayon. Entré par la porte du courrier des lecteurs à Libération, il était devenu sous le pseudonyme de VVXZ l'une des signatures fétiches du journal. Il officia longtemps et officie encore à la rubrique Rock, se penchant sur les textes de Marianne Faithfull, de Jenny ou de Michael Jackson, comme s'il décryptait des textes de Germain Nouveau ou de Jean de la Ville-Mirmont. Bayon, écrivain assez fascinant, personnage érudit, discret, fidèle, perfectionniste, aimable et légèrement obsessionnel. Rieur aussi, presque enfantin, même s'il arrive que son cœur se fiche dans une mélancolie qui n'est pas tout à fait d'enfance. Silhouette fluette d'éternel adolescent, lunettes et coupe de cheveux à la Bedioli, sobriété très étudiée et surtout immuable du vêtement, il respectait un code de civilité très strict, quasi chevaleresque, où chaque geste était répertorié, évalué, en fonction
sa conception secrète de l'honneur. Bayon interrompait souvent ses commentaires, souvent très drôles et très méchants, d'oracle de la galaxie rock, pour tenir à ses camarades, soit au journal, soit dans un petit restaurant serbe de Barbès, où nous avions nos habitudes, de longues leçons extrêmement savantes sur la sexualité de Proust. Il pouvait parler pendant des heures de Jupien, des bordels de garçons que fréquentait Proust, mais son morceau de bravoure, celui qu'il se régalait à nous servir, heureux de déciler ses copains ignorants, et encore plus heureux, si c'est possible, de nous voir contaminés par un malaise collectif que son accumulation de détails, que je vous épargnerai, énoncé sur un ton très articulé pour que l'on n'en perde rien, un ton détaché comme si tout cela était normal, avait contribué à créer. Il me semble, rétrospectivement, qu'en fait, Bruno Bayon faisait à cette époque des variations et des gammes sur le mélange singulier de la volupté et de la souffrance, la férocité du corps qui jouit, qu'entendons-nous autant de bonnes intentions, autant d'anges purs sont martyrisés et pleurent. Dernière étape, enfin, de mon pèlerinage proustien, Saint-Moritz, à la fin d'un hiver de neige. Un homme me tend les bras en rugissant dans le hall de l'hôtel Schweizerhof. Un sourire large, une voix de stentor, une crinière lisse et blanche, un nez pointu, un regard noir, très tendre, sous la houle piquante des sourcils, un teint de rose, c'était Heinrich Maria Ledisch Revolt, grand éditeur allemand, inventeur du livre de poche, le Rororo, et patron spirituel de l'édition mondiale. Il s'avança vers moi, un cigare à la main, dans un panache de fumée. Les fenêtres de l'hôtel découvraient un panorama de glace éternelle et il neigeait sur l'Oberengadin. Après une tasse de café, suivie de quelques Bloody Mary, malgré l'heure matinale, nous avons commencé à parler. J'étais venu l'inviter à brasser quelques souvenirs. Il évoqua son métier avec des clins d'œil, des regrets, des emportements, racontant d'innombrables histoires, entrecoupées de curieux miaulements. Le rire parfois dévorait son visage, l'instant d'après un voile gris éloignait son regard. Il me donnait des nouvelles des vivants et des morts, de ses auteurs sur lesquels il veillait, Beckett, Mishima, Sartre, Céline, et je pouvais voir battre son cœur. Vers 15 heures, nous avions parlé seulement de littérature. Il s'écria : « Vous ne connaissez pas Jane, c'est ma femme. Elle et moi, nous sommes comme le soleil et la lune. Nous allons la retrouver, nous sommes inséparables. » Je fus présenté à Jane, anglaise, d'une élégance rare. Jane est l'un des personnages d'Ada, de Nabokov. Et nous partîmes bras dessus, bras dessous. Nous nous sommes quittés seulement le lendemain matin. Nous étions amis. Ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai appris les conditions de leur rencontre, en 1956. Revolt n'avait pas pu publier Proust faute d'argent. C'était l'un de ses grands regrets d'éditeur. Il le regretta encore plus le jour où il voulut conquérir celle qui allait devenir sa femme. Jane était mariée quand Heinrich l'a rencontrée. Tombée immédiatement sous son charme, sachant qu'elle ne vivait que pour la littérature, il lui parla. Elle, distante, un peu ennuyée, « Ah, on m'a dit que vous étiez éditeur, mais qu'avez-vous publié exactement ?» Lui, emporté, charmeur, sûr de lui, « Ah, mais tout, ma chère, tout ! Ah, tout ! Camus, Nabokov, Hemingway, Sartre !» Et elle, à brûle-pourpoint, dans un battement de paupières, « Tout, vraiment ? Alors, vous avez publié Proust ?» Et lui, décomposé, « Proust ? Non, pas Proust. » Ce jour-là, Jane, qui avait appris le français dans la recherche, qu'elle connaissait par cœur, lui avait parlé de Proust avec une telle exactitude que, fasciné, il avait décidé de l'épouser. J'ai dit que nous étions devenus amis. Nous sommes revus le plus souvent possible, chez eux en Suisse, dans une maison que je louais dans le Limousin, à Londres, à Hambourg ou le plus souvent à Paris. À Paris, Jane invitait Noël au défilé des collections Saint-Laurent. Heinrich y assistait aussi sans rien perdre du spectacle, les mannequins et les robes. Je l'ai retrouvé le soir et nous allions souvent dîner chez Pharamond, près des Halles, un restaurant que Jane avait fréquenté avec son père lorsqu'elle était enfant, et où elle prétendait, non sans raison, que l'on servait les meilleures pommes soufflées de Paris. Tous les trois me commentaient le défilé. Noël me racontait qu'au premier rang, découvrant les merveilles des robes, Jane récitait des phrases entières de Proust qui lui semblaient correspondre soit à l'ambiance du défilé, soit à la texture ou à la coupe particulière d'une robe. Arrivé presque au terme de ce qui était pour moi un voyage et une initiation, je me suis rendu compte que tout mon travail d'écrivain était une plongée dans le temps. Avec Chagrin Lorrain, mon premier livre, j'avais voulu raconter ces milliers d'hommes arrachés à leur village dans toute l'Europe, devenus vagabonds du travail et ignorant encore l'ordre et la discipline nécessaires à l'âge du fer naissant. Deux années passées aux archives, trois années passées comme établies, m'avaient introduit dans la familiarité d'un monde qui, à l'heure où j'écrivais, commençait à disparaître. Au milieu des années 90, tout en menant à bien mon projet méditerranéen, des portraits de ville où je cherchais à la fois l'intensité du passé et l'intensité du présent, j'ai commencé à travailler sur un roman dans la marche du temps. J'ai quitté Paris avec mes cartons d'archives, mes bandes magnétiques et mes souvenirs. C'était la main du siècle, de ce terrible XXe siècle qui s'était posé sur moi. Le siècle et sa légende, ses fléaux, ses grandes et petites apocalypses, ses personnages, ses héros oubliés et tous nos copains disparus, sa nostalgie de culture et de communion, ses étoiles invisibles. Proust n'était jamais loin. Écrire, dit Claudio Magris, c'est aussi marcher le long du fleuve, remonter son cours, repêcher des existences naufragées, retrouver des épaves accrochées aux rives et les embarquer sur une précaire arche de papier. C'est l'arche de Proust qui nous a rassemblés ce soir. J'ai tenté de vous décrire les étapes du voyage qui m'avait conduit jusqu'à Proust et surtout de vous présenter ceux qui, de Paul Morand à Heinrich Revoltz, m'ont tendu la main pour me faire naviguer avec lui. Le parcours qui m'a conduit à Proust n'a pas été exactement rectiligne, vous l'avez compris. Mais après tout, comme dirait Proust, de quelle morne ennui est empreinte la vie des gens qui, par paresse ou par timidité, se rendent directement en voiture chez des amis qu'ils ont connus sans avoir rêvé d'eux, sans jamais oser sur le passage s'arrêter auprès de ce qu'ils désirent. Bien évidemment, celui qui m'a permis de mettre un peu d'ordre et de perspective dans cette galaxie d'amitié proustienne et qui a joué un rôle essentiel dans cette mise au point, pour moi, nécessaire, c'est Antoine Compagnon. Et je veux le remercier d'avoir eu la bonté de m'inviter, comme je veux tous vous remercier d'avoir eu la patience de m'écouter.